Bienvenue à ce second discours de la retraite. J'aimerais vous emmener une fois de plus vers un thème qui m'est très cher, qui est peut-être mon thème de prédilection, mon aspiration la plus profonde dans la pratique de la méditation, qui est le thème de la conscience et de la nature de la conscience. Et en préparant, je me sentais réjoui en fait d'aborder ça avec vous et de pouvoir aborder ça avec vous aussitôt dans la retraite quelque part, et ça c'est aussi parce que vous avez tous déjà à votre manière une pratique, ce qui permet en fait déjà d'aller vers des thèmes qui ont une certaine complexité. Bien sûr, il y a des moments où il se pourrait que vous lâchiez, vous soyez perdu dans ce que je dis, soit parce que les mots que j'utilise, vous n'êtes pas familier avec ces mots, ou parce qu'on va à des endroits où vous n'avez pas encore porté vos réflexions, mais ça n'a absolument aucune importance. Ne laissez pas la critique intérieure émerger en disant ah ben tiens, c'est trop compliqué pour moi, moi je suis pas capable de ce genre de truc. Juste, c'est tout à fait normal en fait qu'il y ait des endroits dans des discours, et c'est même bon, j'ai envie de dire, qu'il y ait des endroits dans des discours où on ne comprenne pas. C'est important en fait d'entendre parler de choses qu'on ne comprend pas encore et que peut-être un jour on va pouvoir comprendre. Il se peut aussi qu'il y ait des choses que je dise qui soient complètement à côté de la plaque et je m'en rendrai peut-être compte dans 10 ans. Et ça aussi, c'est bien sûr, c'est évident, c'est impossible autrement. Ça fait 20 ans maintenant que je m'assois comme ça pour parler, je dois avoir dit quand même pas mal de bêtises aussi. Normal. Ou je peux avoir dit des choses qui étaient justes à ce moment-là pour moi et qui m'ont permis, en fait, une fois cela établi, de voir plus loin. Il y a ça aussi dans nos compréhensions parfois sont des plateaux pour arriver à une compréhension suivante qui remet en question cette compréhension-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je voudrais repartir de cette citation que j'avais prise hier de David Hume. Lorsque j'entre le plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière ou autre. De la chaleur ou du froid, de la lumière ou de l'ombre, de l'amour ou de la haine, de la douleur ou du plaisir. Je ne m'attrape jamais à aucun moment sans perception, et je ne peux rien observer d'autre que la perception. La douleur et le plaisir, le chagrin et la joie, les passions et les sensations se succèdent et n'existent jamais toutes en même temps. Ce ne peut donc être de l'une de ces impressions, ni d'aucune autre, que l'idée de soi dérive. Et par conséquent, une telle idée n'existe pas. Donc là, il en vient à travers ses recherches et son exploration, à la notion que l'idée d'un soi, d'une identité séparée, indépendante, est une idée fausse, quelque part. Et cette nouvelle manière de voir, et il utilise ce terme manière de voir, cette nouvelle manière de voir, ça s'est dit plus loin, le libère quelque part. Il se sentait comme dans un tube en verre, et puis subitement, il y a plus le tube, il y a beaucoup plus d'espace, il y a quelque chose qui se pose en lui, et il y a moins de tension et plus de connexion aux autres. Dans ce passage de David Hume, et je dis bien dans ce passage parce que je suis loin d'avoir lu tout le traité. Il ne parle pas spécialement de la conscience. Et du coup, on va dire que quelque part, c'est un élément manquant, qui peut-être vient plus loin dans son livre, je n'en sais rien. Un autre, ça m'a donné en fait, ça m'a ramené à l'esprit une petite parole du Bouddha, qui disait, celui qui me cherche dans une forme ou dans un son, celui-là pratique une voie erronée. Celui qui me cherche dans une forme ou dans un son, celui-là pratique une voie erronée. Et ne pourra pas voir le Tathagata. C'est le Tathagata, c'est l'éveillé. En fait, ne pourra pas voir l'éveil, quelque part. Celui qui cherche dans une forme ou dans un son. Est-ce qu'on est parfois conscient? Est-ce qu'il existe des moments où on est conscient et où il n'y a pas de forme et où il n'y a pas de son? Une forme? En fait, parfois, je pense dans les textes du Bouddha, avec toutes les traductions et tout ça, c'est toujours un peu compliqué, mais ça réfère à, c'est souvent traduit comme phénomène, un phénomène. Un phénomène, c'est quelque chose qui vient du latin phénoménon et qui veut dire qui apparaît. Donc toute chose qui est perceptible est un phénomène. C'est quelque chose qui apparaît. Donc est-ce qu'il existe des moments de conscience vides de toute apparition? Est-ce qu'il existe des moments où on est conscient, mais pas conscient de quelque chose? Ça, c'est voilà encore une piste et de réflexion, mais surtout d'observation. Est-ce qu'il est possible, c'est ce que David Hume essayait, est-ce qu'il est possible de s'attraper en dehors d'une de toute perception, d'avoir une sensation d'exister en dehors de cette sensation d'exister et confirmée, parce que souvent, en fait, ce qu'on fait en méditation, c'est qu'on sent notre sensation d'exister au moment où on perçoit quelque chose. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Hein, on sent notre, enfin, il ne le dit pas exactement comme ça, mais on sent notre sensation d'exister au moment où on perçoit. Souvent, quand on entend un son et qu'on est conscient, à ce moment-là, on se sent présent. Ou une sensation physique, ou la respiration, ou une pensée, ou quoi que ce soit, en fait. Une perception qu'on donne la sensation d'être présent. Est-ce qu'il est possible d'avoir cette sensation de présence dans un vide complet, sans aucune perception? Une réalisation qui m'est chère et qui, à mon sens, est vraiment importante déjà à réaliser, mais à approfondir encore et encore, c'est cette relation entre l'intensité de la sensation d'être présent et, je vais faire formule de maths, mais est inversement proportionnelle à la quantité de pensée et à l'agitation de la pensée, on va dire, et à la quantité de pensées qui se produisent. C'est-à-dire, en d'autres termes, que plus, et ça c'est tout à vérifier, hein, mais bon, voilà, dans mon expérience, il me semble que plus on se sent présent, moins il y a de pensées. Ça, je pense que c'est vraiment important à retenir et à essayer de voir dans les moments où il y a une présence intense, une sensation intense d'être là, d'être bien là. Et du coup, il y a plein de perceptions à ce moment-là. Imaginons. Il y a les oiseaux, il y a le vent, il y a la respiration, des sensations physiques, de temps en temps une pensée qui passe mais qui ne nous attrape pas vraiment, et peut-être une émotion, une tension. Enfin, il peut y avoir tous des phénomènes, en fait. Des phénomènes qui se produisent dans ce moment de présence, mais il va y avoir peu de développement de la pensée. Il n'y a pas une histoire qui tourne et qui nous attrape. Parce que quand il y a une histoire qui tourne et qui nous attrape, justement, on perd cette sensation d'être présent. Donc il y a un jeu là entre les deux. Et ce jeu-là, je pense que je trouve ça super intéressant de l'observer, en fait. C'est pas tellement de l'observer, mais à certains moments de remarquer que dans les moments où on se sent présent, la pensée est au ralenti. Et du coup, toute une partie de notre identité n'apparaît pas dans le moment, puisqu'il y a besoin de la pensée pour se rappeler qui on est, d'où on vient, est-ce qu'on fait là. Donc il peut y avoir des moments ici, dans l'attente, où on n'est plus vraiment conscient qu'on est ici dans l'attente. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est ici dans l'attente. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a plus suffisamment d'activité mentale pour ramener pour se rappeler de ce qu'est ce moment, de se rappeler de qui on est, de notre passé, de ce qu'on a fait et de ce qu'on voudrait faire. Il n'y a plus assez de mouvement dans notre pensée pour rappeler ces aspects de notre vie. On est là, bien présent. Il y a des sons, des sensations physiques. Il y a des pensée peut-être qui passe, mais elle ne nous attrape pas. Et il y a toutes sortes de phénomènes, en fait, comme je le guidais dans la méditation, plein, 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 plein de phénomènes, certains perceptibles, d'autres non, mais en ne parlant que des perceptibles, il y a plein de phénomènes qui vont et qui viennent, qui ont un début, une durée, une fin, comme on dit, et qui changent, et qui changent, et qui changent. Mais il y a peu d'histoire. Le narratif de nous-mêmes est au ralenti. Ça, c'est énorme. C'est énorme de constater ça. De constater, parce qu'à ce moment-là, on fait l'expérience de nous-mêmes et d'une manière d'être de nous-mêmes qui semble avoir une certaine indépendance de l'histoire. C'est-à-dire que quelle que soit la tournure de l'histoire, cette sensation d'existence semble plus inaffectée, plus stable, moins dépendante des directions que prennent nos vies. Et dans ces moments-là, il va y avoir, je pense là à ton retour, Yann, par exemple, il va y avoir plus une sensation d'unité. Une sensation d'unité avec tout ce qui est. Ou peut-être même pas avec tout ce qui est, mais juste une sensation d'unité, ou d'appartenance, ou d'unité. Ça peut être aussi dit comme une sensation que rien n'est vraiment extérieur à moi. Une sensation, en fait, que tout est en moi. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà plus ou moins senti ou pas. Ça n'a pas d'importance. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dans des moments où le mental ralentit, où la pensée ralentit, il y a une plus grande présence, il y a une plus grande conscience, il y a la présence de la conscience, les mots, de toute façon, on peut jouer avec, essayer de rester avec ce que je veux dire, en fait. Il y a une plus grande sensation de présence, il y a moins de construction de tout un aspect de notre identité. On a l'impression d'être là, en contact avec nous-mêmes d'une façon assez authentique, et on peut avoir l'impression, en fait, que ce qui est perçu se passe en nous. Pourquoi? Parce que cette sensation de présence, en fait, c'est quelque part cette sensation de présence et la sensation je. C'est-à-dire que souvent la sensation je, elle est la sensation je, elle est là où se trouve notre attention souvent. Donc quand notre attention est prise dans notre narratif de nous-mêmes, on a c'est je, Denis, papa, qui enseigne le dharma, qui a fait ceci, qui a voyagé, qui a fait ça, et toutes mes petites histoires, et toutes mes petites. C'est ça la sensation je, quelque part. Et puis quand les histoires se posent, alors la sensation je, c'est plus je suis la conscience. Et du coup, quand il y a un son, j'entends le son. Quand il y a une sensation physique, je perçois la sensation physique. S'il y a une émotion, je perçois l'émotion. S'il y a une pensée qui passe, je perçois la pensée qui passe. S'il y a une tension dans le corps, je perçois la tension dans le corps. Si quelqu'un tousse, j'entends le son. Je suis ce qui perçoit. Ça, c'est la sensation. Tout ça se passe à l'intérieur, dans cette conscience. Comme l'écran de Nisargadatta Maharaj, dont je parlais la dernière fois, tout se passe sur l'écran, et l'écran est inaffecté. Il y a un peu de forêt, l'écran ne brûle pas. Une rivière qui coule, l'écran n'est pas mouillé. De la même manière, il y a cette sensation, en fait, d'un espace, et dans cet espace, les choses vont et viennent et se produisent. C'est, à mon sens, ce que nous dit, par exemple, Rumi, dans un de ses écrits, Gulshan Iraz, vois le monde contenu en toi-même. Mais toi-même, pas Denis, avec ses petites histoires. C'est pas possible, ça veut rien dire, en fait. Vois le monde contenu en toi-même, Denis qui habite Boissezon. C'est tout petit, Boissezon. On n'est même pas 15 habitants. Ça va être difficile de voir le monde contenu dans Denis à cet endroit-là. Mais il y a différentes manifestations de Denis. Il y a des moments où Denis n'est même plus Denis. Il y a des moments où, posé dans le silence, la notion, l'idée Denis n'apparaît pas. Ce qui apparaît, c'est tous les phénomènes dans le champ de la conscience. Et une sacrée sensation d'être présent et d'exister. Alors à ce moment-là, là, à cet endroit-là, ça veut dire quelque chose. Vois le monde contenu en toi-même. Parce que je ne suis plus une petite identité, je suis cette conscience elle-même. Je suis en contact avec la source de moi-même. Je suis la source de moi-même. Je suis la source de tout ce qui est perçu, y compris de nous. C'est-à-dire que si dans ce moment de grande tranquillité et d'espace et de conscience, il y a un son, il est perçu par la conscience. Il y a une sensation physique, il est perçu par la conscience. Il y a une pensée, elle est perçue par la conscience. Il y a une envie que la méditation s'arrête, ce qui serait rare dans ces moments-là, parce qu'en général c'est assez plaisant, mais mettons qu'on est un petit peu à la limite de ce moment-là, et il y a une certaine agitation qui s'installe et on voudrait que le bol sonne. Qui perçoit ça? La conscience. C'est pas je. C'est s'il y a une frustration, une tension, tous les états émotionnels sont perçus par la conscience. C'est ce processus d'identification, en fait, que je trouve super intéressant et très, à la fois, dans un sens très libérateur et dans un autre sens très problématique. Et quand il y a, par exemple, de nouveau, cet état de présence, de conscience, les choses vont et viennent, tout ce qui est perçu par la conscience, la sensation d'exister elle-même est perçue par la conscience. Et là, va venir une pensée. Il peut venir plein de pensées. Elles ne gênent pas. Elles ne sont pas, on ne les saisit pas. Mais va venir une pensée, par exemple, de, oh, qu'est-ce que j'aimerais que cet état dure? Ou bien, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir y revenir? Comment est-ce que, peut-être, il faudrait que je pratique plus parce que c'est tellement extraordinaire. À ce moment-là, ça, c'était juste une pensée perçue par la conscience. Mais il va y avoir une identification à cette pensée. Il va y avoir la sensation que c'est moi qui pense. Alors que, sinon, les pensées peuvent aller et venir. Il n'y a plus la sensation je pense. Il y a la sensation une pensée est perçue. Mais il va y avoir certains types de pensées qui vont vraiment nous attraper comme si il y a quelque chose qui fait, ben, ça c'est moi qui pense. Ça c'est pas juste une pensée qui passe, ça c'est moi qui pense. Et on a une certitude inquestionnée, c'est je qui pense. Et là on est reparti. Hop, l'espace se réduit. Et on va probablement repartir dans le mouvement. Et donc quand on est là en méditation et qu'on se dit bah c'est long, qu'est-ce que j'aimerais bien être quand même plus capable de me concentrer mais j'y arrive pas, ou quand il y a de la quelle que soit la critique, quelle que soit le ou la frustration, ou oh là là, cette retraite et dire qu'on est qu'au début, mais c'est vrai, on a tous ça à des moments. Mais si on arrive à se poser la question, mais qui observe ces pensées? Qui est le témoin? Qui est le sujet? Ça peut nous ramener à ce qui, en nous, est indépendant de ces pensées. Ça peut nous faire nous changer de. Il y avait un maître de méditation avec qui j'ai fait deux retraites. Il appelait ça, c'est pas très poétique, mais il appelait ça des. Alors, comment il disait? From which platform of operation, le plateforme d'opération. De quel niveau est-ce que vous opérez? Et donc, le fait de se dire, qui observe cette agitation? Qui observe cette irritation? Qui observe? Et ça peut nous ramener, en fait, dans le fait que l'observateur, c'est la conscience. C'est cette présence. Comme si l'observateur était en dehors de l'histoire et voyait l'histoire. Ça nous permet de sortir de l'histoire et d'avoir l'histoire comme devant nous. Et dans ce moment-là, dans le soufisme, alors il parle de l'envers du monde. Le monde, les choses se retournent. Ce n'est plus nous qui apparaissons dans le monde, c'est le monde qui apparaît en nous. Et on trouve ça dans plusieurs traditions. Le monde apparaît en nous. Mais de nouveau, qu'est-ce qu'on entend par nous? Qu'est-ce qu'on entend par je? Qu'est-ce qu'on entend par exister, par être? C'est ça, en fait, qu'il faut affiner. C'est ce qu'on entend par être. Comme David Hume, qui a changé de perspective, suite à ses recherches, il a changé de perspective et sa sensation d'être a changé. Sa sensation d'individualité s'est quelque peu dissoute. Peut-être que vous connaissez l'histoire d'un sage chinois, Chuang Tzu, qui parle de l'histoire de Zhuangzi. Zhuangzi? Oui. Zhuangzi qui rêvait qu'il était un papillon. Vous avez déjà peut-être entendu. Alors donc, c'est Zhuangzi qui rêve qu'il est un papillon et il se sent léger, très léger, et il papillonne de gauche et de droite. Et il a vraiment cette sensation de légèreté et de liberté. Et puis subitement, il se réveille et il se retrouve, Zhuangzi, dans un corps solide, dense, inquestionnable. Et il se demande, Est-ce que je suis Zhuangzi qui a rêvé qu'il était un papillon? Ou est-ce que je suis un papillon qui rêve qu'il est Zhuangzi? C'est un peu différent comme état d'un à l'autre. Mais dans les deux cas, alors que les deux états sont très extrêmes, il y a une chose qui ne change pas. C'est la conscience. La conscience était là pendant le rêve du papillon, la conscience est là pendant l'éveil de Zhuangzi. Elle est toujours là, elle n'a pas changé. Et celui qui la connaît, il la trouve tout le temps partout. Elle est toujours là, elle est toujours accessible, elle est solide comme un rocher, elle est plus nous que nous-mêmes, elle est ce qui nous rend vivants, elle est le plus grand mystère de l'humanité. Elle est plus intime que l'eau ne l'est au poisson. Elle est tout le temps là, dans les trois états de sommeil, de rêve et d'éveil. Parfois consciente d'elle-même, parfois pas. Quand elle est consciente d'elle-même, on dit je suis conscient. Et quand elle disparaît, on a l'impression qu'on était inconscient. On dit je suis conscient. Qui est conscient? La conscience est consciente d'elle-même. Où est le jeu? Qui est le jeu? Qui est le jeu qui est conscient? Il est où le jeu qui est conscient? Les hindous appellent les phénomènes lila. Lila, c'est le grand théâtre. Le grand théâtre de la vie. Et c'est l'être est le spectateur du grand théâtre de la vie. La conscience, le je profond, est le spectateur du grand théâtre de la vie. Et dans le grand théâtre de la vie, il y a tout. Il y a tout ce qui est extérieur et il y a tout ce qui est intérieur. Parce qu'il n'y a plus extérieur et intérieur. Quand on voit l'envers du monde, il n'y a plus l'extérieur et l'intérieur. La distinction entre extérieur et intérieur n'a plus de sens. Si je me sens être la conscience, que ça soit le bruit du vent ou le chant des oiseaux ou une pensée, tout est perçu par la même conscience. Tout est quelque part extérieur à la conscience ou intérieur à la conscience. Il y a plus dedans, dehors. Ce sont toutes des perceptions dans une conscience. Un son est perçu par la conscience, une pensée est perçue par la conscience, une émotion est perçue par la conscience, tout est perçu par la conscience. Il n'y a plus dedans, dehors. Dans certains états de nous-mêmes, cette distinction ne se fait plus. Il reste des phénomènes qui apparaissent et qui disparaissent. Toutes ces questions, on se les pose. Si on se les pose, en fait, c'est pas. Moi, je trouve ça. Déjà, je trouve ça très amusant. Je trouve ça de nouveau comme une grande enquête, comme un grand jeu, le grand jeu de la vie, comme s'il y avait un mystère à découvrir. Et moi, j'aime ça. Mais surtout, ces questions-là ont tout leur sens parce qu'elles nous libèrent de certaines identifications erronées qui nous font souffrir et qui causent de la souffrance. Les identifications erronées sont toujours problématiques. Elles vont toujours créer un problème. Il suffit de voir l'état du monde pour le comprendre. L'égocentrisme naît d'une idée du fait qu'on existe indépendamment et d'une façon séparée de tout le reste. Mais cette idée d'une existence séparée ne tient pas la recherche. Pour quelqu'un qui vraiment, d'une façon même très rationnelle et systématique, cherche la source de l'existence indépendante, ou d'une façon très logique et philosophique, parce que ça se fait aussi, de quelque manière que ce soit, on verra bien que cette idée ne peut être que fausse, qu'il n'y peut pas y avoir une existence séparée, indépendante. Et donc il y a énormément de souffrances en fait qui viennent de cette notion, et d'où ces questions, qui suis-je, hein, pour mettre en lumière un petit peu quelle est mon identité ou quelles sont mes identités, parce que c'est différentes identités, on a différentes couches. Là, la couche de la conscience est peut-être la couche la plus centrale, peut-être. Peut-être qu'il est encore plus central que ça. Mais en tout cas, on est proche du cœur de nous-mêmes. Mais c'est étonnant parce que cette conscience, j'utilise le mot conscience, j'ai souvent utilisé, et je les utilise de façon assez interchangeable, le mot attention aussi. Cette attention. Donc, elle est là depuis notre naissance, au moins. Et c'est ce qui permet de connecter. C'est ce qui permet de faire contact avec l'intérieur, avec l'extérieur. C'est toujours là. Même quand on est distrait, par exemple, ben c'est parce que notre attention fait contact ailleurs et n'est plus consciente d'elle-même. Et du coup, on dit je suis distrait. Mais en fait, l'attention était bien là et était en train de faire l'expérience d'une histoire imaginaire, par exemple. Mais l'attention, c'est ce qui permet de faire une expérience. Pas d'attention, pas de conscience, pas d'expérience. Zéro, rien, néant, pas d'individu, personne. Mais en même temps, aussi, quelque part, essentielle qu'elle soit, elle est presque invisible. Peut-être elle est invisible. Elle permet de connaître. Thich Nhat Hanh lui l'a décrit comme l'eau. Il prend l'exemple de l'eau. Il dit elle va prendre la forme de son bocal. Donc si c'est un bocal rond, elle devient ronde. Si c'est un bocal carré, elle devient carré. Et l'attention fait ça. Là où elle va se porter, elle devient ça. Et du coup, on est ça. Et du coup, on se sent ça. Et du coup, on devient ça. Donc, quand mon attention est prise dans un certain type de pensée, je vais me sentir ces pensées. Je vais comme, on pourrait dire, je vais être ces pensées. Si mon attention est pleinement impliquée sur le cours de la rivière, je me sens rivière. Je fais l'expérience rivière. Si elle est sur la montagne, je fais l'expérience montagne. Si elle est sur un film, je fais l'expérience du film. Mais dans cette pratique de méditation telle que je la décris, on fait quelque chose qui est assez finalement qui est assez incroyable, parce que on va utiliser, par exemple, on va utiliser les perceptions de manière à poser l'esprit. Par exemple, on va utiliser la respiration. L'esprit, à un moment, va se poser. Alors, c'est moins ce qu'on fait ici en méditation allongée, mais vous allez voir le lien. Donc, on va utiliser la respiration pour que l'esprit se pose. Et puis, quand l'esprit sera suffisamment posé, il va y avoir moins de construction d'une identité habituelle, elle sera moins présente. Donc il y aura plus cette sensation d'être présent qui sera là. Et à ce moment-là, on peut toujours garder une relation avec la respiration ou avec les sons, mais vraiment ce qui nous intéresse, c'est la sensation d'être présent. On essaye de devenir conscient de la sensation d'être présent. Ou, dit autrement, la conscience essaye d'être consciente d'elle-même. On tourne notre regard, c'est comme vraiment comme un demi-tour. C'est-à-dire que ce n'est plus les phénomènes qui nous intéressent, même on peut dire carrément qu'on se désintéresse des phénomènes, pour faire l'expérience de la conscience elle-même. C'est comme ça que j'entends dans le Sutra du Diamant, celui qui me cherche dans une forme ou dans un son, celui-là pratique une voie erronée et ne pourra voir le Tathagata. Parce que la forme et le son sont là pour, alors juste dans cette approche de méditation, il y a plein d'approches de méditation. Je suis pas en train de définir la méditation avec un grand M, mais dans cette approche de méditation, les sons, les pensées, les sensations physiques et tous les phénomènes, quand ils sont perçus, confirment la conscience. font ressentir la conscience. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est l'expérience de la conscience qui nous intéresse. C'est pas les phénomènes en eux-mêmes. Dans cette pratique, à certains moments, il est très important de s'intéresser, bien sûr, et d'amener toute notre attention aux phénomènes. Mais là, on retire notre attention des phénomènes. On ne la laisse pas s'emporter. Et la seule chose qui nous intéresse vraiment, c'est de laisser s'approfondir cette conscience de la conscience. Je suis conscient et je sais que je suis conscient. Et c'est ça que je cherche. Je me sens présent et je sais que je me sens présent. Et je reste avec ça. Dans cette présence vont et viennent tous les phénomènes. Et si on pratique de cette manière-là, en fait, ce qui se passe, c'est que peu à peu, les perceptions s'amenuisent. On perçoit moins. On reste présent. Une présence parfois plus diffuse, moins intense, ça dépend. Mais il n'y a plus cette conscience, parce que il n'y a plus un intérêt profond pour les phénomènes, et du coup, les phénomènes sont de moins en moins perçus. Donc, on entend moins les sons. À ce moment-là, d'abord, avant ça, on va continuer à entendre les sons, mais on va avoir une relation qui change. Notre relation à toute chose, au temps, à l'idée de nous-mêmes, à ce qui se passe autour, notre relation change énormément. Tout ça est à constater, en fait. Par exemple, si dans une méditation allongée, ça arrive, c'est pas encore arrivé trop dans ce groupe-ci, mais ça arrive qu'il y ait quelqu'un qui ronfle pas mal, eh bien, ça peut, suivant l'endroit, notre plateforme d'opération, comme disait cet enseignant, suivant où on en est, eh ben ça peut nous irriter énormément ou ça peut ne pas du tout déranger. Si on est dans un moment où il y a peu de construction de l'esprit, il va y avoir peu de résistance aux choses telles qu'elles sont. Il va y avoir peu de préférence. Il va pas y avoir d'envie que les choses changent ou soient différentes. Le temps va changer tout. Et c'est pas on-off, c'est une gradation, donc c'est ça qu'on peut remarquer. C'est qu'il y a des moments où les choses vont nous déranger beaucoup plus et des moments où elles vont nous déranger beaucoup moins. Il y a des moments où elles vont nous déranger vraiment très très peu, et puis ce que je dis, c'est qu'il y a des moments où on ne va même plus les percevoir. Et à mon avis, c'est ce que disait Bouddha dans une discussion avec des moines. Discussion assez courte, elle est relatée de cette manière-là. Il est sorti de sa hutte, et là il y avait des moines qui étaient attroupés pour l'écouter. Et il a été très bref, il leur a dit, je vous dis moines que... D'abord il leur a demandé, pensez-vous... Non, regardez ça. Donc voilà. Donc, je vous dis, moine, que vous pouvez marcher dans n'importe quelle direction pendant toute votre vie, vous ne verrez jamais le bout du monde, la fin du monde. Et pourtant, je vous dis, moine, que tant que vous ne verrez pas la fin du monde, vous ne trouverez pas la libération de la souffrance. Là, il parlait toujours en termes de libération de la souffrance. On peut le transposer en réalisation. Et ce principe semble être le bout, comme un continuum, de cette diminution de la perception au plus on est présent. Ça peut paraître antinomique, et quelque part ça l'est, mais donc pour reprendre ce continuum, on peut avoir... Quand on s'assoit en méditation, on peut avoir tout un tas de pensées et une sensation d'individualité très forte. Elle fluctue. À certains moments, si l'esprit se pose, cette sensation d'identité forte diminue. Il y a plus de présence. Il va y avoir pendant un temps plus de perception. On va être plus présent aux sons, aux sensations physiques et moins identifié. Donc ça sera plus mon corps, ça sera des sensations physiques, ça sera plus mes pensées, ça sera des pensées, et elles seront toutes bien vues. Mais ce continuum, s'il continue encore plus en profondeur, la perception diminue. Et tout commence dans notre recherche avec tout simplement quelque chose d'extrêmement familier, c'est la sensation d'être présent. Et ce que je suggère ici, dans ce discours, c'est de s'intriguer, en fait, de cette sensation d'être présent. Quand on est non distrait, de cultiver cette sensation d'être présent. Parfois, quand je suis distrait, et puis que la distraction s'arrête, je réalise, hop, et hop, je redeviens conscient. Par habitude, je reviens directement à ma respiration pour me réancrer un petit peu. Et là, au moment où cette conscience revient, je lui dis, ah, te voilà. Bien, ça me fait plaisir de te revoir. Parfois, je dis, ah, je suis là. Et j'entends dans ma tête, ah, je suis là. Parce qu'il y a la conscience. C'est pas une pensée inconsciente. Je dis, j'entends dans ma tête, mais c'est la conscience qui entend. Ah, je suis là. C'est d'accueillir ce moment. Il va, il vient. Et dans la méditation allongée, on le voit. Et c'est pas la peine de vouloir que ça soit tout le temps comme ça. Mais de temps en temps, quand il y a un moment de conscience, un moment de présence qui émerge, souvent par lui-même, et encore plus en méditation allongée, c'est là qu'il émerge le plus par lui-même, sans être le résultat de notre effort. Ah, un moment on est là. Ben là on peut sourire, faire « Ah, bienvenue, je suis là, ou tu es là ». Et sentir cette expérience d'être présent, d'être conscient. Là, il y a la conscience et il y a tout ce qu'il y a dedans. Toutes les sensations physiques, toutes les perceptions sont dedans. La sensation « je » est dedans. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.